Ça pourrait facilement être une musique de film, Thérèse.
Oui, oui, et c'est très beau.
Cet instrumental très, très beau. Qui vient nous chercher en ce samedi matin à 11h05. Dans cette année de grands bouleversements, on en riait tout à l'heure derrière la régie. On ne sait jamais en 2020 ce qui nous pend au bout du nez. Alors, cette belle musique a un titre, L'arme du printemps, et a un auteur-compositeur, c'est M. Grégory Charles. Comment vas-tu, mon cher Grégory?
Ah, bonjour Paul, bonjour Thérèse. Je vais très bien, et vous?
Ça va bien, ça va bien.
On ne sait pas. En 2020, Grégory, répondre catégoriquement que ça va bien, il faut toujours ajouter « ça va bien aller ».
Ah oui, c'est vrai. Ça fait bien. Maintenant, partie de la formule. Mais avouons là, que malgré tout ce qui s'est passé et qui continue de se passer, on n'est pas si pire. Hein?
Ça, c'est vrai.
C'est pas... Bon, je comprends bien là, les gens qui ont perdu des conjoints, des conjointes, des mères, des pères, des amis dans le cadre de cette pandémie. Je comprends bien qu'ils trouvent pas ça drôle, puis ça ne l'est pas. Mais moi qui travaille beaucoup avec des réfugiés, avec des immigrants, dans les dernières semaines, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Tu sais, Grégory, c'est pas la guerre. » Et pour des gens qui ont vu leurs parents assassinés ou leurs frères et leurs sœurs brutalisés, alors je veux pas minimiser ce qu'on vit, mais c'est quand même pas si mal.
Mais c'est bien ce que tu fais en ce moment, c'est de remettre dans un certain contexte un événement qui a été traumatique, il faut bien le dire, pour tout le monde, et qui l'est encore d'une certaine façon, parce que, disons-le franchement, Grégory, on ne sait pas encore comment tout ça va évoluer. Je dis même pas se terminer, je dis évoluer.
Non, on ne sait pas, puis c'est sûr que ça va avoir des conséquences. Moi, c'est drôle parce que je repensais à mes grands-parents qui, évidemment, ont vécu l'autre pandémie, là, celle de 1918 et 1919. Et je repensais à eux, puis je me disais, peut-être que c'est à cause de cette pandémie, de la grippe espagnole, qu'ils mettaient du plastique chez Chesterfield dans le salon, puis que il y a personne qui allait dans le salon, à moins que ce soit la visite du curé, puis que quand ils s'embrassaient, malgré le fait qu'ils faisaient 15, 16, 17 enfants, ils s'embrassaient quasiment à distance avec une distanciation sociale. Puis des fois, je me dis, on pensait que c'est parce qu'ils avaient peur de leur propre sexualité, on pensait que c'est parce qu'ils étaient froids, mais peut-être que dans le fond, c'était l'héritage d'avoir vécu ce genre de pandémie qui les avait marqués, qui les avait probablement traumatisés. Alors, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à gagner, à remettre en contexte, à relativiser. Ça ne veut pas dire de diminuer les effets, mais de relativiser tout ça. J'entendais votre entrevue là, avec Zachary qui disait quand même, on est à une époque de avancée technologiquement où on est capable quand même de communiquer les uns avec les autres à travers des médias sociaux, à travers de la technologie. Moi, j'ai entrepris depuis plusieurs semaines une tournée de tous les complexes du groupe Maurice, là, donc qui est destiné à des aînés. Alors, j'ai commencé depuis quelques semaines. Il y a 31 complexes qui sont un peu partout au Québec. Alors, chaque semaine, je visite 7 ou 8 complexes en Estrie, à Québec, Shawinigan, Gatineau, partout à Montréal, la Rive-Sud, la Rive-Nord, et je vais faire des concerts extérieurs pour les gens qui sont sur leur balcon, puis qui sont sur le parterre en distanciation sociale, puis qui ont trouvé ça tough les 2 derniers mois, les 3 derniers mois, ils ont trouvé ça difficile. Puis ils me le disent, en plus ça, ils me disent, tu sais, moi j'ai un petit-fils, j'ai des arrière-petits-enfants que j'ai pas pu prendre. Mais effectivement, à cette époque-ci, ils peuvent quand même communiquer avec eux avec leur tablette, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 2 générations.
Ouais, mais t'as raison, Grégory, mais c'est pas comme avoir ton petit-fils ou ta petite-fille qui vient te faire un beau câlin. Ça ne peut pas remplacer ça. C'est ça le problème.
C'est sûr. Encore une fois, je n'essaie pas de diminuer ce qu'on vit. J'ai tendance toujours quand même à trouver quelque chose à relativiser parce que, peut-être parce que j'ai été élevé comme ça, peut-être parce que j'avais un père tellement optimiste et tellement positif, tellement prêt à voir le beau dans ce qui était devant lui. Il réussissait même à contrebalancer ma mère qui voyait vraiment facilement le noir qui était devant elle.
Ta mère était plus... comme on dit, plus angoissé, plus...
Oh non, ma mère n'était pas angoissée. Ma mère était très prompte. C'était une femme dont on n'avait jamais besoin de se demander qu'est-ce qu'elle pensait. Il y a des gens qui on les côtoie, puis on n'est pas sûr. Ma mère, c'était clair. J'ai des millions d'anecdotes de moments où elle a dit tout haut des choses que peut-être d'autres n'auraient pas dites. Alors, on n'avait pas besoin de douter. Elle était très, très prompte. Elle disait sa façon de penser. Mon père était d'une énorme, une grande douceur. Et d'ailleurs, c'est un des éléments qui me fait penser que malgré les déchirements qu'on vit, malgré, bon là, le racisme qui évidemment est à la surface en ce moment, il refait pas surface, il a toujours été là, mais il était à la surface. La relation entre mon père et ma mère, une petite madame de 4 pieds 11, blanche, francophone, un monsieur de 6 pieds 2, noir, anglophone, ma mère était, même avec l'Alzheimer, ma mère était beaucoup plus rapide que mon père.
alors, oui.
Et malgré ça, l'image que j'ai, c'est de voir mon père presque marcher sur place quand les deux marchaient ensemble dans la rue, parce qu'il n'était pas question qu'il la brutalise, qu'il la brusque, qu'il la force à marcher plus vite que ses petites pattes de 4 pieds 11.
Ouais.
Alors, je la vois encore, cette image-là. Mais si ces deux personnes-là qui venaient de milieux vraiment très, très différents ont pu s'aimer l'un l'autre plus qu'ils s'aimaient eux-mêmes,
ouais.
Ben on est capable, nous aussi, de ça. On le sait, de toute façon, je ne suis pas en train de parler d'un rêve là, impossible.
Mais tu avais un bel exemple sous les yeux, là, quand même.
Absolument.
Et c'est drôle parce que quand tu parles de d'eux comme ça me rappelle l'anecdote que tu racontes dans cette réaction que tu as publiée sur la mort de George Floyd, quand tu dis que un jour il y a un homme qui avait été assez dur avec tes parents à une certaine époque, Monsieur Lennox, et qui a reconnu et ton père est allé l'aider à l'hôpital, mais ta mère elle l'aimait pas plus.
Ah, tout à fait. Puis elle lui a redit sa façon de penser 15-16 ans plus tard. Là. Elle l'avait toujours pas digéré. D'ailleurs, dans les quelques moments... vous savez, quand on parle du racisme au Québec, il y en a. Là.
Ouais.
C'est sûr que si on veut faire de la comparaison, là, j'ai un million de comparaisons à faire qui montrent que c'est infiniment plus léger ici qu'ailleurs. Mais, comme dit mon père, un peu de racisme, c'est beaucoup de racisme. Un peu de discrimination, c'est beaucoup de discrimination. Alors, il me le disait, il me racontait ça. Mais dans les moments où c'est arrivé, ma mère, elle venait folle. Puis, bon, on pourrait dire qu'elle n'était pas directement visée. Elle ne supportait rien du tout comme injure ou comme geste de racisme. Alors que mon père, très souvent, lui prenait la main délicatement, puis disait que la confrontation n'avait pas donné le résultat qu'elle souhaitait. Puis, alors, c'était beau de voir. Et je dois dire, moi, depuis que je suis marié à une franco-manitobaine blanche, dans les moments où on a entendu, nous, dans notre environnement, moi directement, ou notre fille, ou notre famille, ma femme, elle réagit là, mais comme ma mère, elle réagit promptement, elle ne supporte pas ça. Moi, c'est peut-être parce que je suis justement le fils de mon père, puis j'ai toujours l'impression que la façon d'avancer, la façon de gagner, c'est de tendre la main. La façon de gagner, c'est de voir la douleur de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à quatre pattes, puis qu'il faut se soumettre, mais c'est de voir la douleur de l'autre, puis de trouver le consensus. Là, on en a vu un, là. Peu importe c'est quoi les couleurs, là, George Floyd aurait été jaune ou blanc ou rouge ou peu importe, voir quelqu'un qui est si indifférent à la vie de son prochain, ça,
ouais.
C'est inacceptable pour chacun d'entre nous. Alors, on devrait partir de là.
Grégory, ce que tu viens de dire est très important parce que l'évolution des choses depuis la mort de George Floyd le 25 mai, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo des policiers de Buffalo et de ce monsieur de 75 ans qui se fait pousser. Bon, il trébuche par lui-même, mais ce n'est pas grave. C'est surtout l'indifférence des agents de police qui sont là. Et on n'a pas besoin de savoir s'il est noir, asiatique, on sait qu'il est blanc. Non, ça vient recouper simplement l'empathie, la sympathie et l'assistance à personne en danger.
Tout à fait. Puis Paul, t'as répété, je vous écoute là, depuis le début de notre émission, t'as dit plusieurs fois le mot polarisation. Le danger dans tout conflit, dans tout affrontement, c'est la vitesse avec laquelle les gens se polarisent. Les gens veulent décider de façon binaire s'ils sont à droite ou à gauche, s'ils sont pour ou contre. Et moi, je crains ça. Mon père disait une autre chose qui est vraiment importante. Il disait, tu sais, ce réflexe que l'être humain a de se polariser, de toujours être pour ou contre, sans nuance, il me faisait remarquer que, tu sais, nos sécheuses en ce moment, là, Paul et Thérèse, nos sécheuses, quand ils nous donnent le choix là, du big load, medium load ou small load, puis que le big load, le temps de séchage va durer, je sais pas, 50 minutes, puis le medium load, le temps de séchage va durer 35 minutes, puis le small load, le temps de séchage va durer 20 minutes, mettons là. Bon, hein, on en a des sécheuses comme ça, là. Et on met notre bordée pour sécher, puis on la met, mettons, à big load. Ben, même la sécheuse, si elle juge que ta bordée est pas si grosse que ça,
elle va
réduire le temps de séchage, OK?
Tu as tellement raison.
C'est une sécheuse, OK? C'est pas quelqu'un qui est allé à l'école, c'est pas un être humain. Fait que si ta sécheuse est capable d'un jugement, de relativiser ce que tu viens de lui demander, jamais je croirais que nous, comme êtres humains, on n'est pas capable de relativiser aussi, de trouver le terrain d'entente, de trouver le consensus.
Mais t'as tellement raison, mais je veux te poser une question directe, Grégory. Pourquoi George Floyd et pourquoi pas Ahmaud Arbery en février 2020? Ça, c'est ce jeune homme de 25 ans dont le crime était qu'il faisait du jogging. Il a été abattu alors qu'il faisait du jogging dans un quartier résidentiel de Georgie par un père et un fils dont le père, en plus, avait eu une longue carrière de shérif. Pourquoi l'élément déclencheur a été George Floyd et non pas un exemple, là, en février dernier, Ahmaud Arbery?
C'est vrai parce que ma femme qui travaille dans un domaine, Nicole, qui travaille dans un domaine qui est très, très sec, dry, elle travaille pour Microsoft, là, ils vendent du software, et puis répète toujours à ses collègues, à ses camarades, répète toujours en anglais, elle dit « People move when their emotions are moved ». Les gens sont bouleversés lorsque leurs émotions sont engagées. Ce qui est arrivé avec George Floyd, c'est qu'on a 10 minutes d'une vidéo où c'est impossible de ne pas réagir avec émotion. On le sait tous qu'il y a des milliers, des millions de moments où, dans des situations semblables, l'autorité qui domine abuse de son pouvoir, que ce soit pour des gens noirs, que ce soit pour des gens bruns, que ce soit pour des gens blancs, mais on le sait tous, mais on n'a pas tout le temps la vidéo incontournable. Et là, c'est qu'on ne peut pas. Écoute, j'ai regardé la première fois, là, ça a donné comme ça, c'était les nouvelles. J'ai regardé avec ma fille de 8 ans. C'est ce qui m'a bouleversé, le fait que je puisse pas empêcher ma fille de le voir. On l'a vu ensemble en même temps. Que tu veux, il y avait pas. Oh. Et ma fille de dire tout simplement, pourquoi, papa? Pourquoi? Bon, ben alors ça, là, ce moment-là, ça nous galvanise parce qu'on peut pas y échapper. J'écoutais ta question, Paul, puis je me disais, pourquoi Rosa Parks? Pourquoi est-ce que le mouvement des droits civils ont été cristallisés dans les années 60? Parce qu'une femme a refusé de laisser sa place en arrière d'un autobus aux États-Unis, une femme noire. Pourquoi? Parce que ça a frappé nos émotions, ça a frappé notre imaginaire, et c'est suffisant ensuite pour qu'on veuille changer. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, là, mais c'est suffisant pour que noir, blanc, rouge, jaune, on soit prêt, même en ce temps de pandémie, à vouloir changer les choses.
Donc, si je suis ton raisonnement, on est arrivé enfin, après un parcours interminable, j'en parlais un peu plus tôt avec Zachary Richard, puis on en parlait aussi avec Richard Châteauvert, ce parcours date des fondements mêmes de la nation américaine. Tu le sais très bien, tu connais la guerre de sécession. Pourquoi la guerre de sécession a eu lieu? Parce que 11 États du Sud, 11 États dits confédérés, voulaient garder le statu quo en matière d'esclavage.
Ils voulaient garder leur système économique, et oui, puis l'esclavage était central à ça. Mais
je veux t'amener à une chose, Grégory, oui. C'est qu'on a l'impression que ça n'a jamais été guéri, que ça fait partie de l'ADN de la nation. Ça a été tellement traumatisant, c'était la guerre qui a tué le plus d'Américains entre eux. Et on voit encore dans plusieurs États du Sud une manifestation de ça lorsqu'on arbore le drapeau confédéré. C'est comme une forme de dire « ça fait partie de notre ADN » et les choses n'ont pas vraiment changé.
Et ça va être difficile de régler ça tant que les gens qui sont noirs ne pourront pas s'empêcher d'être noirs, d'une part, tant que le niveau de revenus, de richesse des familles noires va être 10 fois inférieur à celui des familles blanches, tant que le niveau d'éducation des familles noires va être 4 fois inférieur à celui des familles blanches. Je veux dire, tant que ça va être comme ça, ça va être très difficile. Mais et là, je veux faire une comparaison. J'ai juste 50 ans. On est à peu près tous dans le même groupe d'âge, tous les trois. J'ai juste 50 ans. Je me rappelle quand j'étais petit des batailles épiques entre les Anglais et les Français sur le territoire de la ville de Montréal.
C'est vrai.
Hein? C'est là, c'est pas la même chose. Je sais pas dire que c'est la même chose. Non, je veux juste dire, on se battait à coups de batte de baseball, là. Bon, entre les Français et les Anglais. Et remarquons 50 ans plus tard comment tout ça s'est assoupi. Tout ça a changé. Est-ce qu'on a encore des tensions raciales ici? Oui. Est-ce qu'on a des tensions entre les différentes communautés immigrantes et les gens dits de souche? Oui, oui, oui. Mais je veux juste dire, hey, on parlait juste de ça dans les années 60, des batailles. Des... Alors, est-ce que c'est possible de progresser? Bien sûr, mon père aurait dit ça, mais mon père aurait dit que la façon de progresser, et c'est pour ça que j'ai écrit la lettre en bout de ligne, mon père, en me parlant de Martin Luther King au mois d'août 1963 avec les 250 000 personnes à Washington, soulignait le fait que le discours de Martin Luther King en était un qui était très intellectuel. Il était venu dire « We have come to cash a check on promises that were broken, promises made 100 years ago. » Il était venu, il essayait d'expliquer qu'il y avait une promesse qui avait été faite aux Noirs d'Amérique avec la guerre de sécession, qu'ils seraient considérés comme des égaux et qu'ils seraient libres, et que ça n'a pas été fait. Et mon père insistait pour dire, c'est la chanteuse en arrière, Maria Jackson, qui disait « Laisse faire ton intellect, parle-leur de ton rêve, parle-leur de ton rêve. » D'ailleurs, les gens qui sont curieux là, peuvent aller voir ce discours-là, on a des images de ça. Et à un moment donné, on a l'impression que Martin Luther King se tourne vers la balustrade derrière lui, il a l'air d'être en train de leur dire « Hey, là, fermez-vous votre gueule, j'ai 250 000 personnes ici. » Et c'est un moment important dans l'histoire de l'Amérique. Mais Maria Jackson insistait « Parle-leur de ton rêve, laisse faire les points. » Alors, c'est le moment qu'on vit là, c'est un moment comme ça. C'est un moment où, oui, on peut sortir 400 ans de grief. On peut sortir de part et d'autre des argumentaires. Il y a un monsieur qui m'a envoyé hier, après la lettre que j'ai publiée sur Facebook, il y a un monsieur qui m'envoie des statistiques pour me dire que les crimes faits par les Noirs contre les Blancs sont bien supérieurs aux crimes faits par les Blancs contre les Noirs. Bon, et je ne suis pas en train de remettre en doute les statistiques. Je suis juste en train de dire, quand on est en train de débattre des points, on peut tout le temps s'ostiner puis trouver un côté ou l'autre. Mais quand on est en train de parler d'émotion et qu'on est en train de parler de rêve, hey, le rêve, là, c'est que la gang de la Ligue des Noirs Nouvelle Génération soit pas en mesure de dire que ses membres ont peur que la police soit avec eux. C'est ça, le rêve.
Là, on va faire une pause, Grégory, et on va reprendre parce que je veux qu'on parle aussi de ta participation à la fête nationale qui va être très différente cette année, mais une organisation quand même solide. Et pour te mettre un petit peu en pause, puisque tu as mentionné son nom, aimerais-tu qu'on sorte avec Mahalia Jackson?
Ah, ben oui, certainement.
On écoute. Notre invité est Grégory Charles. Grégory, cet enregistrement de Mahalia Jackson a été fait, et passe-moi l'expression anglaise, live, alors que Martin Luther King était dans la salle. Quand même incroyable. Quel document.
Et tu sais quoi, c'est drôle que vous ayez choisi cette chanson-là, Joshua Fit, The Battle of Jericho, parce que le texte, dans le fond, dit que la bataille était tellement juste que les murs se sont effondrés, que les murs ont dégringolé. Alors, à une époque où la grande réalisation du président américain, c'est d'essayer de construire un mur entre deux pays.
Et non seulement ça, de le faire payer par les Mexicains.
En plus de le faire payer par les gens qui veulent isoler.
Hey Grégory, tu vas participer au grand spectacle de la fête nationale. Thérèse nous en a parlé tout à l'heure. D'abord dans un amphithéâtre magnifique qui porte le nom de notre entreprise, l'amphithéâtre Cogeco, Trois-Rivières. Ouais. Vraiment dans des circonstances uniques de la fête nationale.
Écoute, j'ai regardé le programme. J'ai regardé ce que moi j'ai à faire là-dedans. Je ne sais pas comment. Je sais pas comment ils vont réaliser ça. Mais c'est Jean-François Blais qui fait ça. C'est titanesque. Hey, écoute, les gens qui veulent vraiment suivre ce jour-là, ils ont avantage à repasser leur répertoire québécois parce qu'il y en a des tunes et il y en a des artistes. Et c'est pas comme il y a quelqu'un qui m'a demandé hier est-ce que vous allez tous venir chanter à tour de rôle dans du plexiglas puis ensuite dans tournée? Hey, que non. C'est des collaborations puis des collaborations puis des collaborations. J'ai l'impression que je vais jouer ou chanter avec tout le monde qui participe à ça. Alors je pense que ça va être énorme. Ça va être extrêmement important. On se souvient tous comment les célébrations de la fête nationale, ça peut, pour des raisons politiques ou des raisons sociales, venir mettre un baume sur des années difficiles. Hein. On se rappelle de Charlottetown, on se rappelle de Meech, on se rappelle des défilés de géants, on se rappelle de toutes ces affaires-là. Là, on a une occasion encore, on a une occasion avec ces fêtes-là de prouver, pas juste aux Québécois, mais pas juste aux Canadiens, mais au reste du monde, que chez nous, il y a une oasis où les gens sont capables de s'entendre. Chez nous, il y a une oasis où les gens, peu importe leur couleur, peu importe leurs origines, sont capables de marcher ensemble et construire quelque chose.
Il aura fallu une pandémie pour que les réseaux se réunissent pour présenter ça sur tous les réseaux québécois.
Thérèse, tu as tellement raison. C'est plus une question de rivalité, c'est plus une question que je pense notre show va être plus pour ceci, pour cela. En même temps, bon, c'est sûr que juste monter le spectacle, on voit bien que c'est différent des autres années. Ouais. Mais moi qui suis habitué au travail virtuel, moi j'ai une académie là, avec un peu plus de 10 000 personnes qui apprennent le piano ou qui apprennent la guitare ou le chant de façon virtuelle, ben on est capable de servir des nouvelles technologies pour travailler ensemble. Là, c'est sûr que c'est un bel amphithéâtre pour faire ça. C'est très, 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 très grand.
C'est
une énorme scène. On va pouvoir respecter les règles de distanciation sociale, mais on va aussi, je pense, pouvoir présenter, ouvrir une fenêtre sur le Québec d'hier, sur le Québec d'aujourd'hui, et j'ai envie de dire aussi sur le Québec de demain. C'est ça le rêve. Le vrai rêve, c'est le pacte entre nous, là. Oui, il y a des questions politiques, il y a des questions constitutionnelles des fois, mais le vrai rêve, c'est quel sera le pacte entre nous? Qu'est-ce qu'on veut pour la suite? Le climat, l'environnement, l'économie, la justice sociale. Toute crise comme celle-là, c'est un moment fantastique pour se poser cette question-là.
Mais tu as tellement raison. L'opportunité, elle se présente d'une façon jamais exprimée auparavant. Tu l'as dit dans le passé, c'est vrai, il y avait eu beaucoup de tensions politiques. Moi, j'ai vécu, je suis en âge pour me rappeler du défilé, et Thérèse aussi, du défilé de la Saint-Jean. Rappelez-vous, en 68, oui. Quand tout a éclaté. Mais t'as tellement raison. D'abord, premièrement, il n'y a pas de foule. Il n'y a pas une façon traditionnelle de présenter le spectacle. Il y a la pandémie. Puis là, on est plongé dans une nouvelle réflexion en accéléré.
J'ai envie de te dire, Paul, une chose qu'une femme m'a fait remarquer alors que je visitais une résidence d'aînés cette semaine. Je chantais pour eux et pour elle la chanson La Manique.
Oui, de Georges Dor.
De Georges Dor. Et puis, après l'avoir chanté, après avoir insisté pour qu'ils écoutent attentivement certains des couplets, la dame me dit, il a fallu que le gars soit à l'autre bout du monde pour composer, pour écrire les plus belles paroles au sujet de la personne qu'il aimait. Ben là, cette année, là, c'est ça. Là. On n'est pas au bout du monde, mais on est à bout de bras, hein, les uns des autres. C'est peut-être l'année où on peut trouver la façon de se dire, comme dit Vigneault, hein, de se dire qu'on s'aime.
De se toucher, en tout cas.
Thérèse, faites attention à ce que vous dites, là, se non. toucher. Là.
Se toucher sans se toucher.
C'est parce que Thérèse est en confinement, Greg, depuis trop longtemps.
Est en confinement comme nous tous en ce moment, mais je trouve surtout qu'elle est en confinement artistique parce que c'est une chanteuse, Thérèse. C'est une chanteuse. Moi et ma famille de la BTB, on sait qu'il y a derrière la chronique, derrière l'observatrice très très juste, il y a derrière ça une chanteuse qui n'attend que d'exploser.
C'est la Janice de Malartic.
Ouais, c'est ça. Mais je veux pas parler de ma carrière de chanteuse. J'aimerais ça parler de ton académie, Grégory, avant qu'on se quitte, parce que t'offres des cours de piano, de guitare,
en parler,
de chant choral. Oui, mais ce que je veux dire, c'est moi, ce que je veux savoir, c'est tes élèves là. Oui. Ils ont quel âge?
Ils ont, ma plus jeune a 4 ans, ma plus vieille a 95 ans.
Ah, ça c'est magnifique. 95. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle apprend le piano?
Oui, dans les deux cas, ils apprennent le piano, mais j'en ai surtout chez les ados qui apprennent la guitare. Mais le piano, puis l'affaire, c'est que Donc, il y a soit 10 minutes de cours par jour. Là, maintenant, avec les années, là, on a différents niveaux, différents cours. Puis, il m'envoie à la fin de chacun des modules. Là, nos modules durent 12 jours. Donc, au bout de 12 jours, les gens, ils prennent une vidéo d'eux-mêmes, puis ils m'envoient leur vidéo, puis là, je suis capable de commenter sur où est-ce qu'ils sont rendus. Puis, j'ouvre des fenêtres à tous les jours. Alors, c'est drôle que pendant cette pandémie, pendant cette angoisse dont Jean-Marc Léger parlait tout à l'heure avec vous, pendant ce temps-là, moi, j'ai des milliers de personnes qui se demandent s'ils devraient jouer leur ré avec leur quatrième doigt ou le troisième doigt dans la troisième mesure, et où est-ce qu'ils doivent arrêter de mettre la pédale. Alors, c'est utile. Pour les gens plus vieux, apprendre quelque chose de nouveau, c'est très, très bon pour leur tête et pour leur cœur. Pour les enfants, surtout à ce moment-ci, sachant qu'ils ne peuvent pas aller à l'école ou aller avoir des cours, etc., c'est une façon extraordinaire d'apprendre. Puis je fais juste penser, là, j'ai des messages de parents qui me disent « Écoute, même si c'est juste 10 minutes par jour, c'est 10 minutes de répit que j'ai dans ma journée avec mes enfants. » Puis ils ont l'air de s'amuser en plus de ça. Alors, je suis bien, bien fier de ça. Là, ma nouvelle entreprise, c'est que je depuis quelques semaines, je fais des spectacles en ligne, surtout pour les gens qui font du caritatif, hein, qui ont besoin d'amasser des fonds. On en a fait cette semaine, on a ramassé là, 500 000 pour la recherche sur le cancer, sur ma propre plateforme virtuelle. Moi, je me préparais à ça déjà depuis plusieurs années. Fait que ça a donné que j'étais prêt au moment où ça a commencé. Puis oui. je savais bien qu'il y avait plein d'organisations, vous le savez vous aussi, plein d'organisations au Québec qui la raison pour laquelle ils sont capables d'avoir la papote roulante ou la maison des jeunes ou de l'argent pour l'Alzheimer ou bien pour le suicide, etc., c'est parce qu'ils font dans leur quartier, dans leur région du Québec, un concert bénéfice où ils invitent Bruno Pelletier ou Marc Hervieux ou n'importe qui. Alors, on a commencé à faire ça, puis on voit l'importance que ça a, parce qu'il y a plein d'organismes, comme des entreprises, qui, s'ils n'amassent pas leur 25 000, 35 000, 70 000, 150 000, plein d'organismes, plein d'hôpitaux, qui ne pourront pas continuer
alors,
à faire ce qu'ils offrent.
Greg, il y a Phil Roy qui nous attend, et je voudrais te remercier d'abord, et puis te relancer une invitation sans date précise, mais en attendant, on a bien hâte de t'entendre et de te voir le 24 prochain à la fête nationale.
Ça va être
merci. Un
23.
C'est ça,
ça
et
va
ne
être
lâche pas, ne lâche
ouais.
pas.
Merci. Et vous non plus, je ne suis pas le seul qui vous écoute et qui est inspiré par votre... Vous êtes maintenant deux personnes de fer, là. Deux personnes de fer qui font des heures et des heures et des heures. Vous êtes comme un filibuster américain, là, quand les gens ne veulent pas laisser le plancher.
Exactement. Là. Mon objectif, c'est de battre Walter Cronkite, qui travaillait encore en 93.
Écoute, si ça continue, c'est l'âge que tu auras lorsque tu vas sortir des ondes.
Salaud. Merci, Greg.
Salut, Grégory.
Salut à tous les deux.
Ça fait du bien. Ben, ça va nous faire du bien aussi de prendre des nouvelles de Phil Roy.